Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venu ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être ici ce soir. Nous sommes heureuses d'accueillir l'anthropologue chercheuse Shora Makarimi. Merci d'être venue jusqu'à nous, qui va nous présenter ce soir son livre paru aux éditions de La Découverte, Femme, vie, liberté. Comme d'habitude, la rencontre est enregistrée, vous pourrez poser des questions, je ferai tourner le micro. Voilà, bonne rencontre.
Bonsoir. Je suis là pour vous présenter un livre d'actualité. Je vais faire ça toute seule comme une grande, sans question. C'est un livre que j'ai écrit entre avril et juin 2022, que j'ai commencé à écrire en fait dès septembre 2022, dès pratiquement la mort de Dina Mahsa Amini, qui a mis le feu aux poudres des soulèvements en Iran. Des soulèvements dont très très vite la dimension très nouvelle, inédite, est apparue pour les Iraniens. Les images qui ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux insistaient sur le fait que cette fois c'est différent. Indafe motefovete. Et il y avait toujours cette phrase qui accompagnait des images que, en effet, nous montraient des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Des femmes qui sortaient du cimetière de Sarrez après l'enterrement de Gina Amini le 17 septembre 2022 avec leur voile au poing et qui criaient Jinjiana, vie, liberté. Un slogan qui est immédiatement repris à Téhéran devant l'hôpital Kassra où les gens rassemblés pour protester contre la mort de cette jeune femme, donc qui est une jeune femme kurde qui est venue à Téhéran pour faire du tourisme et dont la mort en fait va rendre visible pour la société iranienne la façon dont des violences tout d'abord contre les femmes, produit d'un apartheid de genre, des violences contre les minorités nationales ethniques et des violences contre toutes les personnes qui sont exclues économiquement se croisent et sont produites par le même système. Et donc à partir de cette espèce de métaphore que devient la mort de Dina Mahsa Amini, et à partir du mouvement de protestation qui suit son enterrement et qui peut se cristalliser, qui peut s'organiser concrètement en tant que contestation, manifestation à Sarrez au Kurdistan, parce qu'on est sur une terre de lutte historique de plusieurs décennies, qui sait comment en fait s'organiser dans des conditions extrêmement adverses et qui dispose de réseaux militants et de pratiques de lutte et de tout un répertoire d'action de contestation contre l'État central. Donc à partir de ce moment-là, il y a un mouvement qui prend racine en Iran ne date pas uniquement de 2022, mais qui à la fois a une multitude de racines, donc diverses de traditions de lutte différentes qui ont irrigué la société iranienne depuis 1979 et même avant, puisque ce sont elles qui ont aussi conduit à la révolution de 79. Et donc, il y a un enracinement comme ça, multiple de ce mouvement. Mais aussi, il y a un contexte iranien qui est compliqué, qui fait qu'on ne peut pas dire que les femmes se sont éveillées en 2022 et ont retiré simplement leur voile pour demander une liberté. En fait, c'est un mouvement de demande d'égalité politique et juridique conçoit l'égalité comme des femmes d'abord avec les hommes et de tous les corps minorisés à travers les femmes, qui conçoit l'égalité comme la condition de possibilité de la liberté, d'une part. Et d'autre part, c'est un mouvement dans lequel les citoyens iraniens, les iraniennes et les iraniens se posent comme des sujets libres a priori, qui demandent quelque chose, donc qui demandent le renversement du pouvoir, mais qui le demandent en criant « femme, vie, liberté ». Donc c'est une demande de renversement qui est positif. Qui les pose comme des sujets qui désirent quelque chose, qui veulent quelque chose, et qui les pose comme des sujets libres a priori, il va falloir qu'on leur prouve le contraire. Donc en fait, tout ça, c'est aussi des renversements. Donc il y a un enracinement, mais il y a aussi un renversement de tout ce qui faisait les codes de la participation politique en Iran pendant ces 40 dernières années. Et donc on a un régime qui est considéré comme un régime stable dans la région, et un régime dont on nous a raconté depuis plusieurs décennies que son peuple, que sa société ne veut pas son renversement, mais il veut des changements. Et tout à coup, on découvre que non, en fait, les Iraniens veulent le renversement du pouvoir et que ce renversement-là se double d'une forme d'empouvoirment ou d'un accès à l'action politique, à la contestation radicale, qui est nourrie par à la fois des demandes et des pratiques féministes. Et pratiques féministes parce qu'il y a toute une tradition du féminisme iranien qui est une de ces racines dont je parle. Donc voilà en gros ce que moi j'essaye d'observer à distance pendant ce que j'appelle le long automne 2022. Et je l'observe parce que, enfin, c'est important parce que je suis franco-iranienne, parce que je travaille sur la révolution de 79 depuis plus de 10 ans, et notamment la question centrale que je me suis posée assez vite au cours de mes recherches, c'était d'essayer de comprendre d'essayer de comprendre les ressorts du succès de la République islamique. Comment est-ce que la République islamique avait réussi, à la faveur de la guerre Iran-Irak, après 10 ans de terreur, comment la République islamique avait réussi à s'imposer comme une forme d'État légitime et comme une équivalent d'une identité nationale pour les Iraniens. Et ça a été le cas pendant très longtemps. Et comme j'ai étudié ce qui faisait le succès de cette forme de pouvoir et de cette république, en fait, puisqu'il y avait un pacte républicain qui était vivant pendant des décennies, mais je pense que ça m'a mise à une bonne distance pour voir son renversement quand il a eu lieu et quand il a plus fonctionné, quand il a cessé de fonctionner. Donc... c'est de ça dont j'ai essayé de rendre compte dans ce livre. Et il a fallu que, étant donné que j'avais énormément d'histoires à raconter et que c'est une forme d'observation à distance, donc qui n'est pas tout à fait cachère, qui n'est pas tout à fait orthodoxe par rapport aux méthodes des sciences sociales d'observer les choses, mais juste à travers des écrans. Ou de faire des entretiens à distance, de ne pas aller sur place, de ne pas pouvoir se rendre sur place pour voir en fait comment les choses se passent concrètement. Donc étant donné que j'observais les choses à distance et que j'essayais de... Je voulais remédier à la fragilité en fait de cette observation à distance par l'épaisseur de tout le contexte historique et toutes les comparaisons et toute la stratification, la sédimentation entre les différentes histoires de lutte qui ont nourri ce mouvement. Il fallait trouver une forme qui puisse s'adapter à tout ce que je voulais dire et qui ne passait pas forcément par, encore une fois, des formes d'observation ou d'écriture qui étaient académiques, puisque moi je suis anthropologue à la base. J'écris des articles scientifiques, mais je publie aussi des témoignages, j'écris des textes qui sont non scientifiques, qui sont plutôt littéraires. Et j'ai réalisé aussi un film, donc je travaille aussi avec des matériaux visuels, des images et des vidéos et des photos, et beaucoup avec des archives. Et donc, à partir de là, trouver une forme d'écriture qui corresponde au niveau d'observation auquel je voulais me situer et à cette espèce de micro-événementialité du soulèvement dont je voulais transmettre un peu la texture telle que je l'observais, la forme chronique m'a paru le plus adéquat. C'est pas un journal du soulèvement, c'est-à-dire c'est pas des notes que je prends au jour le jour. Il y a beaucoup de réécriture et c'est aussi quelque chose qui est un texte qui est construit après coup, notamment en identifiant tout ce que j'ai besoin de dire ou tout ce que j'ai envie de dire, tout ce qu'il faudrait savoir, et ensuite en essayant de trouver parfois des dates qui correspondraient ou des petits événements qui correspondraient à... qui me permettaient en fait d'amorcer la réflexion. Et l'idée de la chronique, c'est de partir d'un événement et ensuite de dérouler un fil de réflexion en faisant parfois des associations libres et en faisant des va-et-vient entre ce qui relève du domaine public et ce qui relève aussi de l'histoire personnelle. Et en faisant des va-et-vient entre des choses que j'observe, des entretiens que je fais, des matériaux que je collecte et puis des travaux antérieurs que j'ai fait, des choses que j'ai écrites avant, etc. Et donc... la forme chronique permettait de faire ça. Par exemple, pour un des premiers textes que j'ai commencé à écrire pour le livre, justement, c'était pas du tout le début, le 15 septembre, qui est le jour où Niloufar Ahmedi, une journaliste du quotidien réformiste Char, va faire son enquête à l'hôpital Kasra, où on lui dit qu'une fille a été amenée par la police des mœurs dans le coma. Donc c'est pas la première que j'ai écrite. Et d'ailleurs le 15 septembre, j'ai pas non plus tenu de notes. J'ai juste vu passer la photo comme tout le monde de Gina Mahsa Amini intubée au service des urgences. Et puis voilà, c'est que quelques jours plus tard que je me suis vraiment intéressée au mouvement quand les gens ont commencé à protester. Et la première chronique que j'ai écrite, c'est celle sur les mouvements des mères du 18 octobre, qui est la plus longue en fait du livre, qui est un petit peu au milieu du livre aussi, qui est dans une séquence un peu plus longue où il y a des chroniques qui reviennent sur tout le passé en fait, toute la construction de la République islamique dans les années 80. Tout le passé de violence sur lequel est assis ce pouvoir. Et pour amorcer cette chronique, je commence par ce qui se passe le 18 octobre, en fait, c'est que la mère d'un cyberactiviste tué, torturé à mort en 2009, en 2011, pardon, et qui est devenue depuis lors une des figures de la demande de justice du mouvement des mères en deuil en Iran, Gohar Eshri, enlève son voile. C'est une vieille dame d'un milieu populaire qui a vraiment... qui est un personnage un peu intouchable, extrêmement persécuté, mais tout de même, par exemple, pas emprisonné, qui est une femme qui disait déjà mort à Khamenei, donc mort, enfin abat le guide suprême, il y a plusieurs années, quand c'était pas du tout une phrase qui circulait comme ça dans la rue, comme c'est le cas aujourd'hui, qui disait déjà ça, qui déjà ancrait sa demande de justice dans une contestation très radicale, et qui avait un corps extrêmement, et donc il y a toujours eu cette qui a un personnage extrêmement charismatique, parce que elle a il y a un contraste entre cette femme qui est très frêle, très fragile, âgée, en tchador noir, dans une tenue traditionnelle, avec un corps vraiment très subalterne dans sa façon de se tenir, dans sa façon de parler. C'est une femme qui s'est séparée de son mari et qui a élevé ses enfants seuls en étant femme de ménage et puis employée dans une morgue dans une banlieue pauvre de Téhéran. Et il y a toujours ce contraste entre sa fragilité et sa détermination et sa posture de confrontation radicale contre le pouvoir, qui, à une époque où justement cette posture de confrontation radicale était totalement absente de la société iranienne. Et elle dit donc, elle enlève son voile par solidarité avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et je commence avec et donc j'utilise en fait un peu le prétexte de ce geste-là pour réfléchir et surtout décrire et parler du mouvement des mouvements de mère, des différentes générations de mouvements de mère en Iran, et de la façon dont ils deviennent presque le lieu d'exil en fait d'une confrontation radicale, justement d'un antagonisme avec le pouvoir, jusqu'à ce que cette forme de lutte-là devienne beaucoup plus partagée à partir de 2019 et puis de 2022. Mais dans le cas de Gohar Eshri, de cette mère en deuil, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que elle c'est une incarnation, un peu une figure des damnés de la terre, de subalternes, comme je disais. Et c'est au nom de ces damnés de la terre que la révolution islamique a eu lieu, en fait. C'est vraiment le peuple révolutionnaire, le peuple souverain qui s'est soulevé en 79. C'était celui des damnés de la terre, et la République islamique s'est légitimée en s'opposant comme le porte-voix, le protecteur, le représentant des damnés de la terre et notamment des Mostazafan, donc de ces déshérités, de ces jeunes hommes surtout déshérités qui habitaient dans les bidonvilles. Et donc cette mère en deuil fragile et subalterne, dans sa critique radicale du pouvoir, en fait, elle retourne aussi les choses, puisque elle fait de la République islamique, en fait, elle remet la République islamique à la place de l'ennemi que cette République islamique s'est toujours donné et contre lequel cette République islamique s'est construite, c'est-à-dire l'oppresseur des plus faibles, le Shah d'Iran et puis les États-Unis et puis. Et donc finalement ce retournement qu'elle opère, il est minime, et pas si minime que ça, puisque elle est devenue une figure, elle est extrêmement médiatisée, elle est connue, sa lutte est reconnue, mais c'est ce mouvement là en fait d'évolution, de remettre la République islamique à la place de l'ennemi que ce pouvoir s'est donné, pour reconnaître la République islamique comme l'oppresseur et non pas comme le défenseur des faibles, comme un régime néolibéral prédateur et même cannibale, si on pense à la question de la vente des organes et des rumeurs de prélèvement d'organes sur les corps suppliciés des manifestants. Donc un régime néolibéral prédateur sur l'environnement, sur les corps contrôlés, et un régime qui est aussi impérialiste dans la région, mais aussi donc au Yémen, en Palestine, au Liban, etc., mais aussi contre ses propres périphéries, contre le Kurdistan et le Baloutchistan à l'ouest et à l'est de l'Iran, le Kurdistan qui est géré par des politiques de contre-insurrection et le Baloutchistan qui sont des régions dominées notamment par des politiques antiterroristes, et donc la République islamique qui utilise contre sa propre population en fait des formes de violence coloniale, de violence d'État, de violence impérialiste qu'elle prétend dénoncer en fait sur la scène internationale, les politiques antiterroristes, les politiques contre-insurrectionnelles. Et donc, il s'agissait aussi d'arriver à rendre compte de toute cette complexité, de toutes ces évolutions, de ce point de bascule. C'est pour ça que j'appelle le soulèvement révolutionnaire, à la suite des Iraniens qui eux-mêmes appelaient ça la révolution de 1401, puisqu'on était en 1401, en 2022. Et les chroniques me permettent d'emmener les lecteurs, en fait, dans cette histoire longue et complexe, ramifiée, du pouvoir et de la résistance, tout en mettant au centre la question de la mémoire comme arme politique et des politiques d'effacement comme arme de contrôle de la part du pouvoir. Et aussi en créant pour les lectrices et les lecteurs, j'espère, en tout cas c'est aussi le retour que j'ai eu, une mémoire, puisque d'une chronique à l'autre, d'un événement qui revient, d'acteurs qui reviennent au fil des chroniques, on se balade aussi à l'intérieur de cette histoire iranienne des 40 dernières années, en développant sa propre mémoire de ce qui s'est passé, avec des événements qui se répondent les uns aux autres, ou des acteurs ou des personnes qui reviennent d'une histoire à l'autre, quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire pour présenter le livre.
Est-ce que vous voulez poser des questions? Moi, j'en ai une. Maintenant, on n'entend plus vraiment parler des révoltes dans la rue, enfin des manifestations. Est-ce que ça a pris une autre forme, le mouvement, en fait?
Le mouvement n'a pas pu faire autre chose que prendre une autre forme, parce qu'il n'était pas assez massif pour tenir le rapport de force dans la rue, massif en nombre. Les manifestations, c'était des manifestations de quelques minutes, maximum 30 minutes, et qui étaient extrêmement fragmentées, décentralisées pour pouvoir essouffler les forces de l'ordre, et qui se déplaçaient comme ça de point en point dans les villes, grandes et petites. Dans les villes du centre du pays, enfin dans la capitale comme dans les villes des provinces périphériques, le Kurdistan notamment a été vraiment un haut lieu le poumon un peu de la révolte, et le Baloutchistan encore aujourd'hui, les gens descendent dans la rue tous les vendredis pour contester le pouvoir et demander justice par rapport au massacre de 90 personnes qui a eu lieu le 30 septembre à Zahedan, 2022. Donc il y a bien sûr plus de manifestations dans la rue comme il y a pu en avoir. Les manifestants et manifestantes ont fait face à une répression extrêmement cruelle et sanguinaire, dont on n'a pas pris la mesure, je pense, de la cruauté encore, parce que les témoignages ont mis du temps à sortir, parce que ces témoignages n'ont pas forcément été relayés dans un premier temps, parce qu'il s'agissait de ne pas mettre l'accent, comme dit le rapport Toumach Salehi, ne pas mettre l'accent sur la défense mais sur l'attaque, c'est-à-dire que la question, l'enjeu pour la société iranienne en 2022-2023, c'était pas de dénoncer la violence du pouvoir. Là, tout le monde savait très bien à qui il avait affaire, contrairement à 2009 justement, où les gens étaient extrêmement surpris. Donc l'enjeu, c'était pas de dénoncer à quel point le pouvoir était violent et meurtrier, mais c'était de le renverser. Donc en fait, l'accent n'a pas été mis sur la répression. Mais aujourd'hui, notamment à travers des opérations de documentation, on peut commencer à avoir une idée de la cruauté extrême, en fait, et inédite, qui s'est abattue sur les manifestants et les manifestantes. Et peut-être de la façon dont le régime iranien a appris aussi du régime syrien à renouveler ses méthodes. Et donc, bien sûr, face à ça, les gens sont plus dans la rue aujourd'hui. Mais les gens qui descendent dans la rue pour vivre leur vie au quotidien, les femmes notamment, le font beaucoup sans voile. Donc ça, c'est une façon de relocaliser la contestation à des niveaux qui soient juste en dessous du seuil de ce qui est de ce qui déclenche une violence de répression extrêmement extrêmement forte. Donc on va essayer de Et il y a des formes d'organisation qui se mettent en place, qui sont réprimées, qui se remettent en place, mais notamment, par exemple, il y a eu l'arrestation de dizaines de militantes féministes dans la ville de Lache, dans le Guilan, juste avant la date anniversaire de la fin août, avant la date anniversaire de la commémoration des 1 an de la mort de Gina Mahsa Amini, et c'était en réponse à une réunion qui devait se tenir, une réunion féministe justement qui devait se tenir dans cette ville, dont toutes les participantes ont été arrêtées. Donc, les formes d'organisation sont très très dures à mettre en place et à observer. Mais ce qui se passe, c'est que cette société iranienne, en fait, elle a voulu la réforme pendant très longtemps. Elle a eu des modes d'action et de contestation qui étaient réformistes. C'est plus le cas aujourd'hui. Elle veut le changement du régime. Mais elle a quand même appris, elle est quand même héritière en fait de ces pratiques de lutte réformistes qui étaient aussi des pratiques de résistance par le bas. Les réformistes, ce n'était pas uniquement un parti politique qui était au pouvoir, c'était aussi une tradition et des pratiques de lutte par le bas qui restaient à l'intérieur des lignes rouges, qui faisaient face à des paradoxes et des apories très fortes. Mais qui était une façon de s'organiser qui naît en fait d'une connaissance fine des mécanismes de la répression en Iran. Et donc une façon de répondre à cet état qu'on avait fini par connaître au quotidien parce qu'on le fréquentait intimement. Et donc je pense que les Iraniens sont héritiers de ces pratiques-là, les ont pas oubliées et peuvent les remobiliser. C'est un ensemble de techniques, de stratégies, notamment mais par exemple ce qu'on appelait au début des années 90 la présence comme résistance, la façon d'être là dans un stade de foot, de faire du vélo en public, faire du skateboard, toutes ces choses qui sont interdites aux femmes. Ne pas sortir sans son voile, avec le voile dans son sac, et sans tenir de pancarte, sans chanter de slogans, mais juste la présence comme résistance. Donc c'est une résistance individuelle qui correspond à mise au service d'une demande collective, et c'est ça qui est nouveau, c'était pas le cas avant. Mise au service d'une demande collective qui est celle d'un renversement du pouvoir. Et donc là, l'objectif aussi est différent par rapport à ce qui se passait avant. On en est là aujourd'hui en Iran.
Oui, d'abord merci. Moi, la question que j'ai deux questions. La première, c'est finalement sur quoi s'appuie encore la théocratie en Iran pour rester au pouvoir, en dehors de la répression, mais quelle force sociale ou pas il y a derrière. Et la deuxième chose, c'est que il y a eu à d'autres moments des mouvements syndicaux, enfin en tout cas dans les entreprises et chez les enseignants, etc., etc. Et je voulais savoir où ça en est actuellement.
Encore une fois, on est dans un contexte de répression très fort. Donc, moi, par ailleurs, je suis pas journaliste. Enfin, je suis pas capable de vous donner au jour le jour un compte rendu de là où on en est. Enfin, c'est pas. En effet, il y a eu des luttes syndicales très fortes, un mouvement ouvrier très fort. J'en parle dans plusieurs des chroniques. Et en fait, comme il y avait des mouvements de grève importants en 2022, il y avait quand même pas mal d'organisateurs de ces mouvements-là qui étaient déjà derrière les barreaux quand a commencé le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Les mouvements des enseignants aussi sont importants, parce que c'est pas uniquement des grèves, c'est pas uniquement les enseignants se sont mis en grève à l'automne 2022, Mais plus largement, ça j'en parle aussi dans une chronique, les enseignants, en fait, leur base sociale a changé. Ils étaient... Les enseignants étaient formés dans des écoles normales qui étaient extrêmement contrôlées par l'État, donc qui recevaient une éducation, une formation aussi idéologique forte. Et c'était des écoles normales où ils étaient recrutés après le bac et où il y avait une ségrégation de hommes-femmes. La néolibéralisation, enfin le rétrécissement des budgets publics a fait que ces écoles normales existent de moins en moins et de plus en plus d'enseignants et d'enseignantes sont recrutés parmi des gens qui viennent de la fac et donc qui ont un master et qui eux viennent ont été des étudiants dans des universités mixtes avec des mouvements étudiants très forts et donc sont politisés différemment, sont formés différemment, ont suivi une éducation, un enseignement supérieur qui est idéologiquement très différent, enfin qui n'est pas justement l'enseignement idéologique. Donc ensuite ils suivent une formation rapide, mais le mal est fait en gros. Oui. Et donc ce sont ces enseignants là qui aujourd'hui s'occupent des enfants en Iran, des écoliers, des collégiennes, des lycéennes. Et donc ça, c'est le temps long des évolutions sociales, c'est-à-dire que ce corps enseignant-là est en contact avec plusieurs millions d'Iraniens et d'Iraniennes au quotidien, et dans un contexte d'extrême... De crise économique, d'inflation extrêmement dure, de survie. Ils font bien plus qu'enseigner des cours, ils gèrent aussi tous les problèmes sociaux qui se posent à l'école, etc. Donc voilà, c'est ça avoir un impact, ça également. Ah oui, qui soutient le régime ? Alors, il y a plusieurs millions... officiellement, les milices des Basidji sont entre 4 et 11 millions. En 2009, par exemple, il y avait les classes populaires étaient très, il y avait une majorité des classes populaires qui étaient et traditionnelles qui étaient des soutiens du président Ahmadinejad, qui est un président populiste qui se présentait comme socialiste, mais en fait qui a été un des plus grands acteurs de la destruction du droit du travail, de la privatisation des entreprises, de la néolibéralisation de l'économie iranienne. Mais donc il y avait cette base populaire à la fois à travers la question des martyrs de la guerre Iran-Irak, et donc les familles des martyrs étaient attachées en fait au projet politique pour lequel leurs proches avaient donné leur vie durant la guerre Iran-Irak. Et d'autre part, bénéficier d'aides sociales, de politiques de redistribution des rentes du pétrole, etc. Et puis, par ailleurs, il y avait cette question de clientélisme économique dans un régime rentier du pétrole. Et les choses ont beaucoup évolué, donc aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de redistribution des subsides comme ça. Alors bien sûr, l'année dernière, ils ont déclaré que les Basidji, les familles des Basidji auraient l'électricité gratuite, ce qui est vraiment pas rien dans le contexte de crise économique. Mais globalement, il n'y a plus ces politiques massives de redistribution qui pouvaient exister auparavant. Et par ailleurs, il y a un détricotage en fait de toutes les formes d'adhésion à la fois affectif, culturel, idéologique au projet de la République islamique, puisque ce projet-là en fait ce qui a été montré par tous les mouvements, notamment de demande de justice mais pas que, et aussi par la répression, les soulèvements de 2019 étaient menés par la classe populaire, les jeunes de la classe populaire, et ils ont été réprimés extrêmement violemment, extrêmement rapidement, et donc il est apparu que encore une fois ce régime n'était pas défenseur des damnés de la terre. Et donc donc par tous ces toutes ces raisons-là explique le fait que les clivages sur lesquels s'était cimentée la République islamique entre les traditionnels et les modernes, qui seraient plus pro-démocratiques alors que les traditionnels seraient compatibles avec le khoménisme, la République islamique, etc., l'islam politique désirable pour eux et tout, ce clivage entre les milieux ruraux et les milieux urbains, les milieux traditionnels, encore une fois, les milieux occidentalisés, tout ça n'est plus... Et donc, du coup, entre ceux qui seraient pour la République islamique et ceux qui seraient contre de l'autre côté, tout ça, c'est plus opérant aujourd'hui, en fait. On peut plus analyser la société iranienne comme ça, tout simplement, parce que ça correspond plus à la réalité des rapports de force et des faits. Donc ça, c'est très important. Et donc, on a un État qui... Pendant des décennies, s'est appuyé sur cette vitalité, cette puissance organique de soutien populaire pour se réinventer. C'est-à-dire que pour réinventer l'autoritarisme en contexte de mondialisation, avec les frontières qui tombent, etc. Pour réinventer l'idéologie républicaine islamique en contexte néolibéral après les années 90. Et aujourd'hui, en fait, il ne peut plus se réinventer parce qu'il a plus cette vitalité, à un moment, je le compare, en disant c'est un régime qui est vivant, mais de la vie des morts vivants, en fait. Et donc, il s'accroche à quoi, en dehors de sa force, de la répression, de la violence, il s'accroche à un régime de cruauté qui peut avoir des effets sociaux. À long terme, la violence est productrice en fait d'ordre sociaux. Elle n'est pas seulement destructrice. Il s'accroche à ce régime de cruauté, il s'accroche à ces formes de violence, il s'accroche à une clientèle aussi. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la trahison des États occidentaux, de la communauté internationale, qui à partir de janvier 2023 a utilisé les acquis de la rue iranienne, c'est-à-dire le fait que la République islamique était à genoux, pour négocier avec la République islamique sur la question, encore une fois, de son programme d'enrichissement d'uranium. Et donc, à montrer à la rue iranienne que, voilà, il n'y aurait pas de soutien de la communauté internationale. La communauté internationale cherchait, enfin, pas la communauté internationale, parce que d'un côté, il y a l'Arabie Saoudite, de l'autre, il y a l'Europe, les États-Unis. Chacun a aussi des intérêts divers, mais on est dans un jeu de rivalité économico-militaire qui, où chacun cherche à négocier, à avoir le plus de force possible. Et donc là, les rivaux de l'Iran se sont assis sur les acquis de la rue iranienne pour pouvoir négocier en position de force avec le régime et le sauver par là même. Et suite à cette trahison-là, finalement, tout le peuple bureaucrate qui tire son salaire de l'État a compris que peut-être il avait pas intérêt tout de suite à tourner le dos à donc les élites culturelles, les cinéastes encore dont une figure du cinéma iranien a été assassinée extrêmement sauvagement chez lui. Lui et sa femme ont été assassinés dans la nuit de dimanche à lundi là, mais l'élite culturelle du pays a massivement mis toute sa carrière et son pouvoir d'influence dans la balance de la révolution, ce qui ne s'était jamais fait. Tout le monde, il y avait encore une fois prudence, modération, patience, le slogan réformiste. Mais par contre, la bureaucratie, tout le peuple fonctionnaire, toute cette frange, ce que les Iraniens appellent la frange grise, a compris avec la trahison de la communauté internationale qu'ils avaient aucun intérêt pour l'instant à se détourner du pouvoir. Et l'autre façon de se maintenir, là on vient de le comprendre, c'est la guerre.
Oui, bonsoir et merci, Shora. Je voulais te demander plein de choses, en fait, mais la première sur le livre, pourquoi avoir choisi une structure par date? Alors, je sais bien, il y a la chronique, elle appelle pas forcément des dates, et c'est un peu, quand on est lecteur, un peu qu'on vient acheter le livre, c'est un peu désopilant au début, parce que ça ne renvoie à rien. On ne sait pas si ça va être juste un récit, justement, de type journalistique. Enfin bon, c'est pas très aidant. Ça, c'était ça. Et puis ensuite, j'essaye de comprendre ce que tu mets derrière le mot renversement, volonté de renversement. Et là, peut-être que, parce que tu as apporté beaucoup d'éléments depuis dans tes réponses, donc je vais plutôt demander qu'est-ce qui reste donc de la magie de cette sur laquelle tu as bossé pendant 10 ans, c'est-à-dire la République islamique qui a emporté une adhésion populaire. Alors, ce renversement, il va jusqu'où ? Qu'est-ce qui reste de cette mythologie fédérative qui t'a étonné, en fait, à quel point elle a été fédérative? Donc, renversée où? Et puis, après, puis je vais arrêter, c'est la question de la répression. On voit quand même, à travers les médias, les réseaux, un incroyable courage, justement, de ces femmes qui se dévoilent, qui se baladent, qui chantent. Et en même temps, on sait très bien que récemment, me semble-t-il, il y a eu à nouveau une femme victime de cette police des mœurs. Et j'avoue que, du coup, je sais plus s'ils sont prêts à considérer finalement que le voile, bon, ben, peu importe, on peut tirer un trait. Peut-on tirer un trait sur le voile, c'est-à-dire accepter que des femmes circulent sans voile, ou bien qu'est-ce qui reste en fait de cette injonction? Là-dessus, je ne comprends pas très bien en fait comment fonctionne le régime de répression, puisqu'il y a beaucoup d'actes de résistance individuelle, donc de personnes, et notamment des femmes, qui sont très exposées. À travers, voilà. Et puis, bon, il y aurait aussi plein d'autres questions à poser, mais notamment sur la possibilité ou non d'une guerre aujourd'hui liée à ce qui se passe au Moyen-Orient. Voilà. Ça fait beaucoup de choses, mais merci de ta réponse.
Je ne sais pas si vous avez lu le livre ou pas, c'est-à-dire si... D'accord. Donc, en fait, le choix d'écrire par date, moi, ça me permettait de rentrer, encore une fois, dans la micro-événementialité d'un soulèvement et du coup d'en donner la texture, c'est-à-dire de rentrer dans la matérialité d'un mouvement politique, de faire un peu la chronique en fait de comment naît un soulèvement et comment il perdure et comment il se reconfigure et comment est-ce que il peut se transformer en feu de tourbe, mais qu'est-ce qu'il a accompli, etc. Donc ça, c'était le choix de la chronique, et ça a vraiment, enfin, encore une fois, c'est un choix, c'est pas du tout un choix par défaut, mais ça me gêne pas qu'on le prenne comme un journal. Je cherche pas à rectifier, parce que quelque part, peu importe, l'idée c'est d'arriver à entraîner le lecteur justement dans une lecture qui va pouvoir narrativiser énormément de choses que je pourrais dire de façon non narrative et thématique, mais ça serait peut-être beaucoup plus ennuyeux, beaucoup moins. Et puis moi aussi, peut-être j'arriverais moins à tisser les liens que j'ai envie de tisser. Donc c'est une question vraiment de tissage thématique, et le chronologique permet de tenir ensemble à la fois de garder trace en fait de ce soulèvement là. Et ça, c'était très important, parce que c'est un soulèvement qui s'est beaucoup... qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux s'en sont fait à la fois une caisse de résonance, en ont transmis des images et des récits, mais sont devenus aussi un espace public en mode mineur, alternatif, là où l'espace public devenait étouffé. Donc voilà, les réseaux sociaux sont devenus un lieu aussi où se déroulaient les choses, quoi. C'était pas seulement un lieu de transmission d'informations, mais l'organisation des réseaux sociaux fait que il y a autant de formes d'organisation de l'information qu'il y a d'identité digitale, et même qu'il y a d'applications en fait de réseaux sociaux. Donc ça fait que chacun se retrouve face à ses murs. Pour là, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, quel récit commun est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Qu'est-ce qui va en rester comme récit commun? Donc ça, c'était important de reprendre le récit chronologique. Mais encore une fois, la forme chronique et la façon dont elle est écrite fait que si on me demandait de faire une chronologie, alors bien sûr, si dans quelques années, on fait la chronologie du soulèvement de 2022, il y a plein de tout petits événements
qu'on ne retiendra pas. Et donc, je pense que c'est important que ce livre écrit à chaud, sans intention d'avoir une hauteur de vue, mais au contraire, qui veut absolument coller à l'événementialité, justement, porte trace de ces choses-là qu'on va oublier, mais que tous ont remarqué sur le coup. Et puis, par ailleurs, si moi-même, je devais faire une chronologie aujourd'hui du soulèvement, je ne mettrais pas le 18 octobre, Gohar Eshri qui enlève son voile, peut-être. Certainement, je le mettrai pas, mais là, voilà. Donc, en fait, c'est important, je pense, de trouver des formes narratives, pas seulement pour pouvoir transmettre les choses, mais aussi pour pouvoir les penser. Sur la question de...
Qu'est-ce qui reste de la République ?
Ah oui, qu'est-ce qui reste de la République islamique ?
De cette adhésion.
Ah oui, qu'est-ce qui reste de l'adhésion à la République islamique? Justement, il reste pas grand-chose. Justement, quand moi, ce que j'écris dans le livre, c'est que peut-être que je vais vous lire un petit bout comme ça, voilà, comme ça. Je le dirai mieux que je passerai moins de temps aussi, ça sera plus rapide pour vous. J'essaye de trouver la chronique sur la Coupe du monde de football au Qatar, voilà, le 29 novembre 2022. Donc c'est la Coupe du monde de football qui a commencé au Qatar le 21 novembre et qui pour moi est le moment où la République islamique telle que je l'ai étudiée en fait, je la vois s'effondrer. La République islamique que moi j'ai connue et étudiée n'existe plus pour moi après ça. Je vais lire hein, parce que c'est plus rapide que d'essayer de trouver. La Coupe du monde de football a commencé au Qatar le 21 novembre. L'équipe nationale iranienne est sélectionnée, mais pour de nombreux Iraniens, le fait d'endosser le maillot de la République islamique est une trahison des sportifs. La ligne tenue par Toumach Salehi est devenue commune. Rester dans le statu quo, pour les sportifs, les actrices, les réalisateurs, les célébrities, revient à se positionner du côté du pouvoir. Il n'y a pas de vote blanc, pas de neutre dans cette guerre. Là, je cite Toumadj. Estime Alim Karimi, ancienne star de l'équipe nationale qui a apporté son soutien entier aux révoltes depuis les premiers jours et annulé sa venue à Doha comme invité d'honneur. En représailles, les autorités iraniennes ont confisqué ses propriétés immobilières. Les joueurs de l'équipe nationale, quant à eux, se sont rendus au bureau du président Raisi qui tenait à leur souhaiter bonne chance. On imagine bien que ces sportifs ne pouvaient pas trop prétexter qu'ils avaient piscine et esquiver la récupération politique. Mais les standards et les attentes ont changé et ces choix contraints ne sont plus tolérés par les Iraniens. Le peuple leur tourne massivement le dos. L'événement est boudé, l'équipe est huée. Sur les réseaux sociaux, les moqueries fusent. Pourtant, lors d'un match amical, les joueurs ont porté des brassards noirs et ont fermé leurs vestes pour recouvrir le sceau de la République islamique, imprimé au milieu de leur maillot. Ils ont refusé de chanter l'hymne national lors du premier match disputé à Doha. Mais leur présence même est vécue comme une trahison. Sur les gradins, sous la soufflerie de la climatisation, plusieurs milliers d'Iraniens vivant à l'étranger sont venus avec des maillots floqués Mahsa Amini. Ils diffusent barraillés dans les haut-parleurs devant les stades. 1-0 pour les manifestants. Très vite cependant, les autorités qataries et iraniennes reprennent la main. La police locale interdit les t-shirts contestataires, les chants et les regroupements des partisans iraniens. Après le premier match, l'équipe nationale se fait recadrer et chante l'hymne au suivant. Elle subit une défaite humiliante face à l'Angleterre et se fait disqualifier, symbole des symboles, par les États-Unis le 29 novembre. L'Iran avait gagné contre eux en 1998 et je me souviens avoir été portée sur les épaules des supporters du bar dans lequel je me trouvais à Limoges quand j'avais fièrement révélé ma nationalité iranienne. Or, cette fois-ci, justement, ce n'est pas l'Iran qui perd, c'est l'équipe de la République islamique. Toutefois, chez beaucoup de téléspectateurs iraniens, l'aversion laisse place à des sentiments plus troubles et douloureux. Cette défaite est aussi un spectacle auquel beaucoup n'ont pas les nerfs d'assister. Il produit un déchirement affectif chez qui a été habitué durant des décennies à considérer le drapeau de la République islamique comme celui de son pays. L'une des réussites principales de ce pouvoir est d'avoir fait coïncider parfaitement, au terme des 10 premières années de sa fondation, deux identités collectives, celle de l'Iran et celle de la République islamique. L'un des axes principaux de mes recherches est l'étude des mécanismes de ce succès. Le pouvoir théocratique y est parvenu à la faveur d'un patriotisme refondé au cours de la guerre contre l'Irak, de lignes rouges superposant frontières nationales et limites politiques, des figures fédératrices du martyr et de l'ennemi, et d'une réécriture maîtrisée de l'histoire. Donc en fait, au cours des chroniques, bien sûr, tous ces éléments-là sont expliqués. Voilà. Les Iraniens vivent depuis quelques semaines le démantèlement de cette coïncidence. Leur rejet de l'équipe nationale de football incarne cette rupture fondamentale, révolutionnaire.
Il me semble que la forme politique république islamique cesse d'exister telle que je l'ai connue et étudiée à ce moment précis-là, sous ses sifflets. Ce divorce entre les gradins et le terrain rend palpable la séparation entre l'Iran et ses dirigeants. Tous les mythes de souveraineté populaire s'étant effondrés, ceux-ci sont représentés comme une clique qui occupe le pays réel. La population partage désormais le sentiment d'être colonisée de l'intérieur, expérience qui était déjà celle des provinces périphériques. « On se battra, on mourra, on récupérera l'Iran », chantent les manifestants. C'est étrange. Ce qui est aujourd'hui un cri de la rue aurait été considéré il y a peu encore comme le discours fossilisé des diasporas restés bloqués dans leur défaite face à Roménie il y a 40 ans. La question est désormais la suivante. Quel est ce pays, cet Iran occupé qu'il s'agit de libérer? Comment se construit le référent commun de cette société iranienne transnationale, étranglée à l'intérieur et asphyxiée par manque de contact quotidien et sensible à l'extérieur? Donc ça répond pas à votre question. Mais ce qui reste de la République islamique aujourd'hui, c'est justement le soutien dont elle dispose à l'extérieur, qui fait que, encore une fois, les franges grises ne peuvent pas se résoudre dans une économie de survie à prendre le risque de rejoindre la confrontation. Ce qui fait sa force, c'est d'être revigoré comme puissance anti-impérialiste à l'extérieur, et c'est en train de se passer actuellement. Donc en fait, c'est vraiment l'intrication de la politique étrangère et de la politique intérieure que joue tout le temps la République islamique. En novembre 1979, la prise d'otage des ambassades de l'ambassade américaine a permis en fait à Khomeini de faire passer par référendum la constitution de la République islamique qui instituait le Velayat-e Fakih, le gouvernement du guide suprême, et qui ne disait rien et qui ne traduisait en aucun élément constitutionnel les positions anti-impérialistes, anti-coloniales et de gauche du pays. Mais en fait, la garantie a été donnée à travers l'événement politique, on va dire, de la prise d'otage de l'ambassade, ce qui a permis complètement, ce qui a créé un écran de fumée, et des gens qui étaient contre en fait le projet théocratique du Velayat-e Fakih, de la constitution, ont quand même voté pour parce qu'ils étaient d'accord avec la prise d'otage dans un, notamment beaucoup de gens de gauche, dans une perspective anti-impérialiste. Donc la République islamique depuis le début n'a cessé d'agir comme ça et continue encore d'agir comme ça, mais aujourd'hui on voit que la rue iranienne est remontée en fait contre les politiques pro-palestiniennes de l'Iran, et ça c'est extrêmement problématique, et c'est pour ça que c'est important par le bas de construire des solidarités transnationales qui nouent en fait les résistances locales en Iran avec les résistances locales en Palestine, avec les résistances locales des habitants israéliens qui sont contre la politique de leur gouvernement, etc.
Merci. Merci beaucoup pour la présence. J'invite tout le monde, en effet, à regarder votre excellent film documentaire, Itch, qui est du coup en streaming sur Vimeo. Et vraiment, c'est très précieux. Moi, j'ai une question justement pour mêler. Moi, j'ai découvert le slogan, voilà, ce terme « femme, vie, liberté » 2017-2019 à travers l'association des événements organisés par l'association franco-kurde de Toulouse, à Liège, lors des rencontres internationales de l'écologie sociale avec des documentaires de Mylène Saulois sur justement le mouvement des femmes kurdes. Et du coup, voilà, je voulais savoir en tant qu'anthropologue aussi, est-ce que vous avez une petite info, j'en profite pour savoir comment d'où vient-il et comment en effet a-t-il pris comme ça, est-ce que vous avez lu des choses comme comment il a été réapproprié? Et en effet, on s'est retrouvé en manif, voilà, pour les mouvements, pour soutenir le soulèvement des femmes en Iran a réactivé ce slogan, et du coup j'ai pas compris le bon en fait, et j'ai pas eu l'occasion d'en contacter quelqu'un pour qu'il me l'explique, mais j'en profite. Et deuxième question, pareil sur vos travaux d'anthropologue de l'État, ce que j'avais découvert du coup avec le mouvement des femmes kurdes et tout ce qui était élaboré comme étant le confédéralisme démocratique au Kurdistan, c'était une critique radicale de la forme État. Et je voulais savoir, et donc du coup une frange voilà, de la contestation qui abandonnait la forme État pour aller vers justement le communalisme et le confédéralisme démocratique. évidemment, la République islamique est une forme État. Donc, et donc, ma question, c'est est-ce qu'il existe donc aujourd'hui parmi... il y a une théorie critique des théoriciens, des théoriciennes qui critiquent radicalement la forme État et qui pensent à une autre forme, justement, puisque inspirée d'autres formes, voilà, qui ne seraient pas celle de l'État actuellement et qui contestent aussi, voilà, l'unicité d'une religion, le pouvoir hiérarchique, l'organe et évidemment la répression. Voilà, dans le courant critique, qu'il soit à l'université ou bien sûr non académique, en dehors des mouvements, quoi. Merci.
Alors pour lier vos deux questions, en fait, en effet, Jindian Azadi, qui vient de ce que les féministes kurdes ont élaboré à partir de la pensée d'Öcalan, mais enfin, c'est surtout les féministes kurdes qui ont repris et qui ont élaboré cette pensée et ce slogan qui tient ensemble l'écologie, le féminisme et cette idée selon laquelle la libération des femmes est la condition de possibilité en fait de penser la libération des peuples. Et notamment aussi la domination patriarcale et le verrou des formes, des organisations, enfin des formes de production capitaliste. Et ça, c'est très important dans la pensée d'Öcalan. Enfin, je reviens dessus dans la chronique consacrée à l'enterrement de Gina Marsa Amini, puisque en fait. La tradition qui a été importée du Rojava et du Bashur du Kurdistan syrien et du Kurdistan turc au Kurdistan iranien, c'est de crier le slogan « Femme, vie, liberté » au moment d'enterrement de mort par féminicide. Donc c'est une forme de dénonciation des féminicides de crier Jindian Azadi. Et ça avait été le cas quelques semaines avant la mort de Gina, lors de l'enterrement de Sheler, qui est une jeune femme kurde de la ville de Sanandaj, qui s'est défenestrée en fait pour échapper à son agresseur, qui se trouvait être par ailleurs un agent des services de renseignement locaux, qui est un voisin qui l'a séquestrée tandis que son mari était parti trouver du travail au Kurdistan irakien. Et son cas, en fait, a été politisé parce que, d'une part, c'était un féminicide encore de trop. D'autre part, c'était non seulement une dénonciation de la violence patriarcale au sein de la de la société kurde, mais aussi une impunité liée à la violence d'État, puisque l'agresseur était aussi un agent des services de renseignement. Ou un indicateur, disons, un collaborateur local. Et donc, c'est presque tout naturellement que lors des funérailles de Gina, la foule a crié Jindian Azadi, parce qu'elle le faisait déjà. Mais comme les images circulaient et qu'il y avait un rassemblement au même moment devant l'hôpital Kasra à Téhéran, et que ces images et que c'est avec et que cette manifestation qui est partie du cimetière de Sarrez vers le cœur du pouvoir, le cœur névralgique de la ville, pour aller au front, en fait, vraiment, pour porter la revendication au front. Comme ces images-là sont immédiatement parvenues à Téhéran, les gens ont traduit le slogan « Jindian Azadi »,« Zan Zendegi Azadi »,« Femme, vie, liberté » en persan. Et il se trouve que ce slogan-là a retourné point par point tous les points d'application du pouvoir théocratique, donc un apartheid de genre femme, le culte du martyr vie et bien sûr la dictature théocratique liberté, quoi. Donc même pas la dictature théocratique, en fait. Enfin, c'est ce que j'évoque dans ma chronique du 11 février aussi. On est dans un projet fasciste, en fait. C'est vraiment, enfin, selon les indicateurs, les analyses des politistes, ça correspond à plein de niveaux. C'est un régime qui dans son projet post-révolutionnaire porte les caractéristiques d'un projet politique fasciste. Donc voilà, Femme, vie, liberté. Je pense que le slogan a répondu en fait aussi à au fait que à ce moment-là, la contestation qui a eu lieu en 2022, elle a les différents groupes sociaux qui s'étaient soulevés à différents moments. Les classes moyennes, la jeunesse, les militants pro-démocratiques plutôt en 2009, les classes populaires, les jeunes des périphéries plutôt en 2017 et en 2019. Il y a aussi, par exemple, les mouvements des protestations des colbars kurdes qui meurent en passant la frontière, qui sont vraiment les plus déshérités en fait, à la fois victimes de violences économiques et de violences nationales ethniques, qui se sont soulevés aussi et qui voilà en 2020-2021, les mouvements syndicalistes aussi, les grèves ouvrières en 2021-2022, mais il y avait pas de voilà, il y avait pas de tous ces mouvements là, il y avait pas de solidarité en fait. Ne se retrouvaient pas solidaires les uns des autres. Et à un moment, il y a eu un soulèvement qui a engagé tout le monde et qui a engagé tout le monde autour de cette idée que l'égalité politique et juridique de tous les habitants, et donc autour à partir de la question des femmes, mais pour tous les minorisés, minorités ethniques et religieuses. Donc l'égalité politique et juridique était la condition de possibilité, encore une fois, de la liberté. Pour les Iraniens. Et donc ça, c'est cette, je pense, c'est cette généalogie-là que moi je donnerais à Femme, Vie, Liberté. Ah oui. Et alors pourquoi est-ce que oui, je voulais lier les deux questions, c'est parce que comme Jinjian Azadi vient de la pensée de Öcalan, en fait justement, un anthropologue aujourd'hui décédé, mais qui a été très inspiré, je pense, par la pensée d'Öcalan. Parce que il s'est rendu au Rojava et il a soutenu la révolution au Rojava, c'est David Graeber. Et en fait, dans son dernier livre avec l'archéologue David Van Groot, c'est une énorme somme qui s'appelle Au commencement été. Et en fait, initialement dans ma chronique du 17 février, je parle, tout un paragraphe sur l'influence que je pense que la pensée d'Öcalan a sûrement eue auprès de David Van Groot et David Graeber, parce qu'il écrit de façon très intuitive, Öcalan. Et du coup, on peut dire c'est superficiel, c'est fait à grands coups de cuillère à peau, etc. Mais en fait, ce sont des intuitions que Graeber et Van Groot ont creusées avec des données, avec 10 ans de recherche de données archéologiques contemporaines sur toutes les formes d'organisation de villes qui n'étaient justement où il y avait des formes d'organisation de sociétés de plus de 100 personnes, donc à partir de sociétés de plusieurs milliers de personnes notamment. Et donc la façon dont toutes ces villes là ont existé, ont fonctionné pendant des centaines d'années sans hiérarchie verticale et forme de domination sociale verticale en fait. L'existence même de ces formes d'organisation horizontale mais à large échelle vient complètement invalider en fait une philosophie de l'histoire et du progrès qui dit que en entrant dans l'agriculture, en entrant dans l'histoire, on va forcément vers la forme État, vers l'administration, vers la verticalité, vers les hiérarchies, et puis la propriété privée, et puis là. Et donc c'était très intéressant. On avait organisé un séminaire avec la Société européenne d'anthropologie sociale et avec David Van Groot. Et avec deux archéologues qui travaillaient sur les mégasites Tripilia en Ukraine, qui était justement un des lieux où un des sites archéologiques les plus féconds, les plus fertiles pour observer ces formes d'organisation qui avaient existé pendant des centaines d'années et qui avaient des formes, c'était des sociétés matriarcales. Et David Van Groot et David Graeber soulignent le fait que souvent ces formes d'organisation non étatiques mais à large échelle, donc qui viennent complètement invalider par exemple des théories comme celle de comment ça s'appelle Noah, il y a Harari, ouais, c'est ça. Hein? voilà le gars qui a écrit. Noah Harari qui disait les formes d'organisation horizontale, ça fonctionne jusqu'à 150 personnes pour des petits groupes, mais dès qu'on est sur des plus grands groupes, on bascule forcément, on doit basculer forcément dans la hiérarchie. Et donc Vengro et Graeber s'appuient sur ces sociétés qui sont souvent en fait matriarcales. Et ce qui est très intéressant, c'est que David Vengro est un archéologue spécialiste de la Mésopotamie, et que dans la dernière conférence qu'il a faite pour la conférence anniversaire de la mort de Graeber, donc il y a une conférence annuelle qui est co-organisée par l'Université du Rojava et l'Université de Berkeley, et là il a expliqué comme ça en passant comment est-ce que il avait lu Abdoulaye Öcalan avant de partir sur le terrain en Turquie. Et donc là l'idée que les deux auraient été influencés, en fait, donc David Graeber, je le savais. Mais David Vengro, je ne savais pas qu'il avait lu Öcalan. Mais en fait, les deux ont lu Öcalan. Il le cite d'ailleurs au commencement été. Mais moi, je suis en train d'écrire une recension justement au commencement été où j'essaye de creuser cette ligne-là.
Öcalan dit qu'il a lu Bookchin en prison. Mm. Murray Bookchin, du coup, il a dit nous serons le premier peuple à appliquer en fait dans la réalité ce que Murray Bookchin en effet avait étudié dans le passé à travers la cité grecque ou même la commune de Paris. Donc par rapport à des collectifs qui réaffirmeraient justement une autre forme d'organisation est possible au-delà même de la République, de la forme État, est-ce qu'elle est présente ou simplement non, il y a encore qu'elle soit islamique ou autre, hein, l'illusion dans l'État, comme dirait Robert Kurtz, l'État n'est pas le sauveur suprême. Il y a encore la croyance dans la forme État, quelle qu'elle soit. Il peut avoir un État bienveillant, bon, gentil, non répressif, non nécropolitique. Est-ce que je crois encore, en fait, ou est-ce qu'il y a une contestation face à ça?
Ah, moi, je pense pas que le soulèvement révolutionnaire en Iran soit anarchiste. Hein. C'est en fait, on est dans une demande de. Je le pense pas. Il est insurrectionnel dans son organisation, enfin dans ses formes de lutte. Hein, mais je pense pas du tout qu'il soit anarchiste. Il est ancré dans une histoire de résistance au Kurdistan où il y a un mouvement fédéraliste fort, autonomiste, donc le indépendantiste, le PEJAK, un mouvement communiste fort, le Komele, et un mouvement, le Parti démocrate du Kurdistan, plutôt pour un Iran fédéral, quoi. Mais justement, l'extrait que j'ai lu, il y a quand même cette idée de y compris les Kurdes et les Baloutches qui se sont soulevés en tant que citoyens iraniens. Donc en fait, il y a une demande de citoyenneté quand même qui est très forte. Il y a un cadre civique très fort qui est posé c'est ça qui est intéressant dans une autre chronique. Je reviens sur le fait que la société civile continue à exister aussi. On n'est pas dans du, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, aussi dans le mouvement de 2022 en Iran, c'est que on n'est pas dans des postures où on va appliquer. Alors on dit oui, ça manque de projet politique. Peut-être que ça manque de projet politique parce que en fait, dans ce contexte de répression, de fragmentation, d'atomisation, il est très compliqué de se réunir pour écrire un projet et le voter. Mais par ailleurs, c'est un mouvement qui allie en fait des demandes radicales avec aussi des formes très pragmatiques. Notamment, par exemple, toutes les associations professionnelles qui ont fait des manifestations, qui sont allées manifester devant l'ordre des médecins, devant l'ordre des avocats, devant les associations de retraités qui demandaient leur pension à l'État, etc. Donc en fait, on a quand même des groupes qui ont joint la protestation, mais qui se posaient comme groupe professionnel qui en tout cas incarnait un désir de société civile. Donc voilà, même s'ils savaient qu'ils allaient tous être arrêtés, et ils étaient tous arrêtés, tous emprisonnés, puis après relâchés, certains d'autres pas, etc., mais ils le faisaient quand même. Et à un moment, il y a eu par exemple tous les écrivains jeunesse pratiquement qui étaient derrière les barreaux parce que ils ont manifesté contre le fait que des mineurs étaient tués en manifestation. Et donc eux, en tant qu'écrivains jeunesse, ont fait une manifestation pour ça. Donc en fait, ça articulé énormément de formes différentes. Mais je pense pas qu'on puisse surimposer en fait un projet ou une forme d'organisation politique claire sur ce mouvement-là.
Oui, en ce qui concerne l'adhésion dont tu parles au régime islamique qui a pu y avoir, qui n'existe plus, mais qui a pu y avoir, est-ce que il n'y avait pas aussi une forme de sidération? C'est-à-dire qu'il y a eu quand même, dans les premières années où le régime islamique a consolidé son pouvoir, une répression, mais d'un niveau invraisemblable, avec des dizaines de milliers d'opposants qui ont été arrêtés, torturés, etc., avec plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont participé à la guerre, une guerre qui logiquement aurait pu s'arrêter très rapidement, mais que justement le régime a voulu continuer. Alors que en face ils étaient prêts à arrêter la guerre, hein, dans le but justement d'avoir cette sidération. Et quand il y a eu 10 ans où les gens se faisaient comme massacrer, enfin c'est du niveau de la répression du régime hitlérien, faut dire les choses comme elles sont. Bon, après, bon, par bon sens, ceux qui pouvaient avoir une voix discordante, soit ils étaient morts, soit ils étaient partis en exil. Et ça concerne des centaines de milliers, de millions de personnes. Et évidemment, après, ceux qui restent, ils n'ont pas envie de subir le même sort. Donc, ceux qui sont contre, ils ferment leur gueule. Ou alors, ils font des petits actes de résistance dont tu as parlé, etc., etc. Et puis après, évidemment, on construit de fait une adhésion. C'est-à-dire qu'entre mourir et être torturé et puis dire « ouais, je suis d'accord avec le régime et tout ça », bon, le choix, il est vite fait. Bon, une deuxième chose, il y a beaucoup de va-et-vient dans ton livre entre le passé et le présent. Il y en a une, moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est les différences entre la révolution de 79 qui avait chassé le Shah et la révolution actuelle qui n'a pas chassé le régime. Et moi, je pense que le régime a encore un soutien fort. Il y a les milices, il y a aussi les passes d'Aran, c'est-à-dire une armée extrêmement performante, puissante, etc., etc., qui fait régner la terreur, notamment dans les provinces comme le Kurdistan et comme le Baloutchistan, etc., etc., etc. Et en face, ça tu le dis à un moment dans ton livre, c'est-à-dire que tout le monde attendait à ce qu'il y ait, comme en 1978-79, une grève générale qui paralyserait le pays, etc., etc. Bon, en se basant sur les grands mouvements sociaux qu'il y avait eu quelques années avant. Bon, et il n'y a pas eu. C'est-à-dire qu'il y a eu des grèves qu'à mon avis, on a survalorisées. Il n'y avait pas tant de grèves que ça. Il y a eu des grèves bon, catégorielles, etc., dans le pétrole, etc., mais ça a duré un jour, deux jours. Mais il n'y a pas eu, comme en 78-79, des mois de grèves, avec en même temps le pétrole qui a été complètement, l'économie était complètement paralysée. Là, l'économie n'a, à ma connaissance, jamais été paralysée. Il y a eu des jours de grève par-ci, par-là. Il y a eu des grèves, on appelait grève, c'était grève des bazars, c'est-à-dire des commerçants. C'est pas tout à fait la même chose que des grèves ouvrières. Et ce n'est pas venu. Donc, si tu pouvais donner des éléments sur la différence entre la classe ouvrière de 78-79 et maintenant, et la différence de niveau d'organisation. D'après ce que j'ai compris, en 78-79, il y avait des syndicats, il y avait des choses qui étaient organisées, structurées, etc., malgré la répression. Et malheureusement, il n'y a pas ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des formes, mais qui sont extrêmement faibles, qui sont extrêmement peu structurées. Et y compris, ils avaient ratissé avant, à partir de mai 2022, ils ont foutu des gens en prison, qui y sont toujours d'ailleurs. Mais il n'y a pas de tissu, le tissu social organisationnel n'est pas le même. Les salariés ne sont pas les mêmes, quoi. Donc y compris moi-même, on a eu tendance à décalquer ce qui s'était passé en 79 et ce qui se passe maintenant, en fait, là, sur ce truc. Parce que s'il y avait une paralysie de l'économie, le régime, il serait tombé, là. Il n'y a pas eu. C'est comme ça que le chat est parti. Parce que l'économie était complètement plantée. Et là, ce n'est pas le cas. Les affaires vont bien en ce moment.
Ouais, moi, je pense que tu as répondu pas mal à la question que tu posais. Donc, en fait, je dirais pas forcément plus. Donc, je pense que, en effet, enfin, c'est. Mais je le traite à travers trois chroniques. Je reviens sur les conditions d'impossibilité de la grève aujourd'hui. Et là, de plus en plus, je suis en train de penser à une autre chose, peut-être à prendre en considération, c'est justement tout ce que Véronique Agago écrit sur la grève des femmes et sur la façon dont l'expérience qui nous vient d'Argentine, par exemple, avec un mouvement féministe extrêmement puissant, c'est que, et une grève des femmes qui a extrêmement bien fonctionné et qui est donc du coup un outil politique qui a été réinventé. La grève des femmes, c'est déconnecter la grève de son référent qui est l'ouvrier homme, notamment du secteur secondaire, voilà, industriel. Et penser la grève dans une coalition, penser la grève autour d'une demande totalement multisectorielle. Et c'est ce qu'ont fait les féministes argentines. Et c'est ce qu'elles ont réussi, en fait. Et dans voilà, dans la puissance féministe, c'est ce dont rend compte Véronique Agago, qui est quand même une théoricienne marxiste qui connaît qui connaît ce dont elle parle et qui arrive à faire une analyse critique de dire comment aujourd'hui en fait repenser la grève en dehors de ce référent du sujet de la grève, du sujet historique de la grève qui a été l'homme. Et alors, en République islamique, enfin, c'est énorme. Le sujet de la grève, qui est l'homme ouvrier qui doit nourrir sa famille. Et ça, c'est. Et donc, je pense que là, on a des choses aussi à. Et c'est aux féministes iraniennes de continuer le travail qu'elles ont si bien commencé en apportant justement un souffle révolutionnaire nouveau et à voir comment on peut penser cette question de la grève puisqu'elle est importante, mais la penser depuis les conditions de reconfiguration de l'espace social iranien qui n'est pas en 2022 ce qu'il était en 79. C'est évident, oui.
Juste un truc, c'est le moi ça me va très bien, mais le truc décisif pour que le régime y tombe, c'est que l'économie soit paralysée.
Alors justement, encore une fois,
si l'économie n'est pas plantée.
Oui, mais qu'est-ce que. Alors, ça, c'est autre chose que j'aborde aussi. Et le cas de l'Argentine permet des comparaisons intéressantes. C'est que la paralysie de l'économie passe-t-elle par le secteur industriel aujourd'hui ou par une explosion financière? Voilà. Et donc là, on était à des taux d'inflation absolument faramineux. Et on a un État qui maintient l'inflation parce qu'il paye, parce qu'il reçoit des dollars et il paye tous ces fonctionnaires dont je parlais qui sont la frange grise en tomane. Et jusqu'à quand est-ce que ça peut durer? Voilà. Donc, oui, en effet, paralysie économique et chute économique. Mais est-ce qu'on est obligé d'attendre la chute économique d'un secteur? Voilà. Donc, à partir de là, on peut repenser la grève et repenser la paralysie économique, et ça nous aidera en fait à penser la grève et la paralysie économique comme condition de possibilité du renversement. Oui.
Moi, j'avais une dernière question, mais je ne sais pas si c'est trop. Est-ce que vous pouviez nous parler de l'articulation entre, de la façon dont vous travaillez, c'est-à-dire déjà vous avez parlé des témoignages. Est-ce que la parole sort facilement? Et la deuxième question, c'était l'articulation entre votre travail d'anthropologue et vos données personnelles, les archives familiales, etc. Voilà. Et peut-être que c'est trop pour finir.
Ouais, c'est une vaste question en fait. C'est un petit peu vaste, mais peut-être que c'est autour de la question de l'archive en fait. Peut-être que je peux répondre à ça. C'est-à-dire que travailler à distance avec des matériaux qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est possible. C'est possible scientifiquement. Moi, je suis pas scientifique, j'objective pas mes données, hein. Mais je pense que c'est rigoureux dans une certaine mesure. Ça peut être précis et rigoureux si on traite ces documents-là comme des archives. C'est-à-dire que c'est pas nous qui avons produit ces documents-là. On les traite comme un corpus, comme des sources, comme ils ont été produits en situation par des activités
Et donc, même s'ils sont ultra présents, ultra contemporains et qu'on les voit défiler sur les murs de nos réseaux sociaux, en fait, les traiter en archives et les traiter, les contextualiser dans, de la même façon que les historiens, les historiennes contextualisent les archives, nous permet en fait de les utiliser comme données, même si ce n'est pas nous qui avons produit ces données de par notre observation. Et donc, ça permet de répondre à la question du biais. Et de la même façon, en fait, j'ai aussi utilisé des matériaux familiaux, des récits, des témoignages que j'ai recueillis ou que j'ai reçus comme des archives. Et donc, c'est vraiment la question de la micro-archive et comment est-ce que on peut traiter en archive différentes différentes données qui parfois sont, enfin qui normalement sont pas forcément traitées comme telles, et comment est-ce que ça nous permet d'en tirer des, enfin de développer peut-être des raisonnements, de développer une réflexion qui justement cherche une forme de précision, une forme de rigueur, mais tout en réfléchissant à partir aussi des émotions, des affects, c'est-à-dire sans essayer de d'être à froid, quoi. Donc on n'a pas besoin de faire refroidir la donnée, comme disent les sociologues, pour la traiter. On peut manipuler des choses qui sont chaudes, mais dans ces cas-là, il faut aussi savoir penser les émotions et les affects. Donc il faut une théorie politique des émotions, et ça, c'est encore une fois, c'est les penseuses féministes qui nous outillent pour tout ça. Il faut penser les liens entre l'intime et le politique, etc. Et donc avec tous ces outillages, on peut également c'est Bourdieu qui disait objectiver les conditions subjectives de production de la connaissance. Et ça, c'est à partir de là. Mais concrètement, la forme d'écriture, c'est justement, l'idée, c'était de chercher une forme d'écriture qui permette de tenir ensemble tous ces différents niveaux et de donner quelque chose qui ne se veut pas autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire que je vais pas, c'est pas un document d'expertise que je livre, c'est pas un point de vue, c'est pas un point de vue objectif et surplombant, c'est quelque chose qui est situé, qui est produit par quelqu'un qui a une histoire familiale, qui a une histoire militante et qui est là avec son corps, et c'est pour ça qu'en préface c'était important de me mettre en scène moi derrière mon écran parce que c'est de là que j'écris et que je parle et c'est de là que, et je pense que c'est en étant le plus rigoureux possible sur la situation depuis laquelle on pense que on peut produire une pensée qui est partageable et dont les autres peuvent faire, voilà ce qu'ils veulent.
Merci beaucoup. Merci.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h. 92.2 sur Canal Sud.